Donc un traité sur la virginité, il y en aura des tas. Hein. Par exemple, Méthode d'Olympe fera un banquet. Alors à l'époque, on aimait bien les symposia, hein. Donc les banquets, et où, qui sont des dialogues fictifs où les gens parlent et racontent. Enfin, donc ça permet de développer une doctrine. Alors vous voyez des choses comme ça, mais il va surtout faire produire une littérature pastorale. Il va prêcher en grec, évidemment, mais il va aussi prêcher en copte contre les Ariens, parce que les Ariens, pour diffuser leur doctrine, ils avaient inventé des petites chansonnettes dans lesquelles ils faisaient passer leur doctrine sous forme de petits quatrains, de petites choses comme ça. Et alors, jusqu'au point que les dockers d'Alexandrie connaissaient ça par cœur. Donc, pour faire face à la diffusion de l'hérésie par ces moyens de communication moderne, on pourrait dire, eh bien, Athanase, lui aussi, a composé des petits refrains à apprendre par cœur, à chantonner, pour faire face à l'hérésie.
On
en a dans ses œuvres. Et puis, saint Augustin fait pareil contre les donatistes. Il y a un psalmus contra partes donatistorum, ou danistarum, qui est une sorte de psaume rythmé avec des refrains où il fait passer la doctrine catholique et réfute la doctrine donatiste sous la forme d'un psaume à refrain. Fallait être inventif, hein. Vous voyez, il n'y a pas que les cabinets de communication d'aujourd'hui qui étaient inventifs, ça se faisait déjà. Donc, alors comme il est intransigeant dans sa lutte contre l'hérésie, évidemment, comme aujourd'hui, dès qu'on défend qu'on défend fermement une idée, on passe pour intransigeant, étroit d'esprit, fasciste, pharisien. Enfin, bref, voilà. Il va passer pour quelqu'un de coincé. Et évidemment, ses adversaires vont le faire passer pour un extrémiste, un quelqu'un de mauvaise, énervant, enfin bon, etc. Auprès de la cour et de l'empereur. Alors, donc au début, Athanase s'appuyait, comme ses adversaires, sur des raisonnements tirés de l'Écriture. En fait, ça ne marche pas, parce qu'il pouvait dire « le Père et moi sommes un », mais de l'autre, on vous disait « oui, mais le Père est plus grand que moi ». Alors, vous pouviez vous balancer des tonnes d'arguments bibliques à la figure, ça n'entraînait aucune... D'ailleurs, Augustin aura la même histoire contre les donatistes, parce que les donatistes, à un moment, vont se servir de l'Écriture, et lui aussi, il se rendra compte à un moment donné qu'il faut recourir à l'argument de tradition. Et donc Athanase va finir par se dire, cessons d'argumenter sur l'Écriture puisqu'on n'arrive à rien, conformons-nous à la tradition des pères. Or les pères, en 325, à Nicée, ont clairement dit qu'il y avait un seul Dieu en trois personnes, trois qui sont Dieu, trois qui sont l'unique Dieu, et que ça s'était enraciné dans le symbole baptismal qui lui-même était remonté aux origines de l'Église. Donc on s'appuie sur, finalement, on s'aperçoit que pour se servir de l'Écriture, il faut, qui est comme une carte, si vous voulez, il faut avoir la boussole de la tradition. Hein, sinon, vous mettez la carte dans n'importe quel sens et puis vous trompez de direction. Oui, hein, tous ceux qui ont été scouts ou guides se souviennent qu'un jour ou l'autre, ils ont pris la carte dans le mauvais sens. Et donc, il faut avoir une boussole qui est celle du magistère, de la tradition, pour pouvoir orienter sa carte et savoir la lire comme il faut. Sinon, on la lit de travers. Voilà. Et donc, la doctrine de Nicée est pour lui la source incontestable de l'orthodoxie. Il reprend continuellement la même formule, le homoousios, hein, de même essence que, et pas d'essence semblable ou d'essence ce qui ressemble à, ou, non, de même essence, de la même essence, exactement. Donc c'est, et face à toutes tous les compromis que proposeront soit des évêques, comment dire, accommodants, ou les empereurs qui veulent justement garder l'unité de la religion, eh bien, il s'arc-boutera sur la formule de Nicée, ce qui lui fera passer pour intransigeant, évidemment. Alors, comme le dit Adolf von Harnack, cité par Hanson Kampenhausen, donc Harnack, c'était un théologien libéral luthérien anobli par Guillaume II, il disait « Sans Athanase, l'Église serait probablement tombée entre les mains des philosophes, sa doctrine aurait été dénaturée, ou bien serait devenue un règlement de service impérial destiné au culte de la divinité resplendissante. » Donc vous voyez, c'est une très très bonne vision des choses. L'Église serait probablement tombée entre les mains des philosophes, comme Eusèbe de Césarée par exemple, sa doctrine aurait été dénaturée, ou bien serait devenu un règlement de service impérial destiné au culte de la divinité resplendissante. C'est-à-dire la religion complètement au service de l'État, comme elle l'était à Rome. Finalement, à Constantinople, même avec un empereur chrétien, on continuait à penser comme le Pontifex Maximus de la Rome occidentale. C'est-à-dire la religion, elle est là pour la cohésion de l'État. Alors, vous remarquerez que ça a servi aussi beaucoup après, parce que combien de princes ont considéré que la religion devait être le ciment de leur État et un peuple, une religion, hein. Regardez les Anglais avec Henri VIII, Elisabeth. Donc voilà. Alors voilà, donc si vous voulez, Athanase, son rôle, ça a été de défendre le homosios du concile de Nicée et d'avoir compris qu'à un moment donné, dans les disputes scripturaires, il faut trancher à partir de la tradition et de la tradition épiscopale, autrement dit le magistère.
Et ça vient de sa formation non théorique ?
En partie, oui, c'est-à-dire qu'il était moins prompt à entrer dans les arguties, etc., mais ayant été formé dès son plus jeune âge comme fonctionnaire du patriarcat, en fait, finalement, il avait le sentiment que les évêques avaient le dernier mot. Voilà, et que c'était les évêques avaient le dernier mot. Quand les évêques n'étaient pas d'accord entre eux, il fallait qu'ils se reportent à leur décision commune, leur dernière décision commune, qui était de fait le concile de Nicée de 325.
Et quand vous évoquiez la virginité, en fait, vous posez la question partie visible d'une sensualité invisible. Mmh. Pourquoi est-ce que ça apparaît, cette justification apparaît seulement à cette époque-là, alors qu'il y avait tant de pères du désert?
Alors ça apparaît à ce moment-là parce que, encore une fois, c'est la réflexion vient après la pratique. Et en fait, l'efflorescence du monachisme, d'ailleurs, il s'en fera le biographe du premier, entre guillemets, premier anachorète d'Égypte. Athanase a écrit une vie de saint Antoine. Comme plus tard Saint Grégoire écrira une vie de Saint Benoît pour l'Occident. Et donc, c'était déjà vécu, donc je vous dis d'une manière plutôt féminine, hein, dans l'ordre des vierges, l'ordre des veuves. On a des traces de ça dans les lettres dites pastorales de Saint Paul. Ça a dû être vécu aussi à titre individuel, sans qu'on sache trop ici ou là. Et puis, vous savez, au moment de la conversion de l'Empire, alors, deux choses. Il y a d'une part le fait que l'Empire avait une pression fiscale qui n'était pas, sans rappeler, celle d'aujourd'hui chez nous. Donc, il y avait un certain nombre de gens qui partaient au désert se cacher pour fuir les exacteurs de, du fisc impérial. Et oui, voilà, donc il partait dans le désert, alors, etc., où il vivait. Bon, bah, ceux qui étaient chrétiens, bah, finalement, ils vivaient, ils vivaient en ermite, hein, un peu, pour se cacher du fisc. Et puis, il y a ceux qui sont allés aussi au désert. Rassurez-vous, il y avait quand même de la place, hein, ils se retrouvaient quand même, ils n'étaient pas surpeuplés. Qui avaient compris que... Ben voilà, qui était à la recherche d'une vie pour eux, enfin disons, devenir chrétien, c'était le martyr, hein, c'était prendre un raccourci pour le... Puis là, ils s'apercevaient que du coup, au contraire, vous deveniez chrétien, hop, on vous offrait les postes de l'ENA local pour être vos fonctionnaires, truc machin. Et ils se disaient, non, il y a trop maintenant de gens intéressés qui deviennent chrétiens, et on ne se sent pas à l'aise dans ce monde d'hypocrites. Et ils ont voulu retrouver une sorte de communauté primitive chrétienne de l'époque, enfin comme dans les Actes des Apôtres. Alors ils sont partis au désert, ou comme ermites d'abord, pour et puis très souvent ayant acquis de l'expérience dans la vie solitaire, et ils ont été rejoints par d'autres qu'ils ont formés. Et ça a produit le monachisme, comme on dit, cénobitique, mais qui est lié à l'érémitisme, etc. Et donc, et puis, bah après, justement, on a fait un peu la doctrine de ça, avec l'idée, parce que autant c'est facile pour des femmes de se dire épouse du Christ, voilà. Autant c'est moins évident pour des hommes. Donc il a fallu faire toute la... Voilà, c'est un peu transgenre. Hein. Donc il faut faire tout le travail intellectuel de se dire, oui, mais en tant que membre de l'Église, on se situe face au Christ dans la féminité de l'Église. Donc d'une certaine manière, notre virginité, même de moine, eh bien, elle se comprend d'une manière sponsale. D'ailleurs, c'est quand Saint Jean de la Croix parle parle de son expérience, il en parle au féminin en disant l'âme, pour éviter d'utiliser le masculin, vous voyez. Donc, il y a une transposition à faire Et alors, évidemment, après, on aura toutes ces réflexions en disant, bah, évidemment, la virginité, elle est liée à l'appartenance à l'Église, et l'Église, donc, c'est l'épouse face à l'époux, toc, toc, enfin, vous avez tout... Tout ça qui se met en place. Et alors, en grande partie, la vogue du désert va être évidemment favorisée par la vie de Saint Antoine, de Saint Athanase. Et d'ailleurs, on dit qu'Antoine, vieux, une de ses rares sorties du désert pour aller en ville, eh bien, s'arrêter pour défendre Athanase face à ses accusateurs.
Et quand vous dites désert, c'est métaphorique, en fait, c'est un lieu isolé,
quand on quitte la vallée du Nil, c'est le désert.
C'est le désert. Voilà, c'est
maintenant, mais à l'époque, c'est
vers moins 10 000 qu'on est passé du.
Oui.
Mais donc, c'était déjà bien désertique. Alors, quand on dit le désert, il faut dire que partout, il y avait des fortins. Enfin, vous savez, vers le sud, le Soudan, c'était quand même... Bon, la frontière n'était pas très définie, mais c'est un peu comme à notre époque coloniale au Sahara. Il y avait des tas de nomades, ça bougeait. Il y avait quand même... L'armée avait des fortins, quand même une ligne de fortins qui était plus ou moins abandonné parce que bon, il n'y avait pas vraiment d'incursion. Puis entretenir des troupes aussi loin, c'était compliqué. Donc c'était plus ou moins abandonné. Et souvent, les premiers ermites ont été... comme il s'appelle Charles de Foucault dans son espèce de fortin, là. Ils sont installés dans des fortins abandonnés. Enfin, des zones, vous voyez, où quand même, là où on mettait un fortin, globalement, il y avait une petite oasis à côté, enfin, un peu d'eau, des choses comme ça. Et ils vivaient quand même retirés de tout. Hein. Alors, en Syrie, ils vont faire aussi... En Syrie, il y aura la même chose. Alors, ils vivront... Alors, la Syrie, c'est plus montagneux. Alors, ils vivront dans des grottes, ou alors, sur ces curieuses cheminées volcaniques que vous retrouvez aussi. Oui, voilà. En Turquie, en Cappadoce, et puis aussi en Grèce, là, il y a des îles.
Météores.
Oui, les météores. Donc vous aviez des volcans qui sont érodés. Il ne restait plus que la cheminée de lave durcie. Et alors ça faisait des colonnes. C'est ce qu'on appelle les stylites. Oui. Les stylites, il n'y en avait pas trop en Égypte, mais il y en avait plutôt en Syrie. Syrie, Jordanie, tous ces coins-là. Et alors là, ils étaient tous fous. Hein. Il y en a qui,
par exemple,
qui, oui, Siméon Stylite. Alors ils vivaient sur ces colonnes. Il y en a d'autres qui vivaient dans des grottes inaccessibles où il fallait.
C'est assez grand. C'est un Siméon, je crois qu'il avait quand même.
Quelques mètres carrés, oui.
Ouais, c'est pas.
Un petit studio.
C'était un petit studio parisien.
Oui, voilà.
6 sur 5, quoi.
Et puis.
Ces monastères très hauts dans les montagnes, en Arménie.
Aussi, il y avait aussi des grottes inaccessibles, ou alors ils étaient ravitaillés de l'extérieur par des cordes, parce qu'il fallait quand même compter sur la bonne volonté des villageois locaux. Voilà, toutes sortes de... Alors il y avait certains, par exemple, qui se mettaient des chaînes et qui traînaient des boulets aux pieds pour montrer que notre humanité était encore soumise au péché. Enfin... Plein de... Alors, le monachisme égyptien était beaucoup plus modéré. Et du coup, c'est lui qui deviendra le modèle du monachisme occidental. Parce qu'on pense souvent que c'est Saint Benoît qui a créé le monachisme occidental. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que les Occidentaux ont toujours été un peu curieux. Et puis, de toute manière, ils faisaient partie du même état que les Orientaux. Donc il y a eu des Occidentaux qui sont allés faire des visites, des voyages d'études spirituelles en Orient, notamment en Égypte. Bah, regardez, Jérôme, lui, il est allé en Syrie. Puis après, s'être bousillé la santé pendant 2-3 ans, il est allé à Jérusalem. Parce que justement, il a voulu faire comme les moines syriens, et puis ça n'a pas trop réussi. Mais par exemple, Jean Cassien, il est allé là-bas. Et quand il est revenu en Occident, il a fondé quasiment le premier monastère occidental, c'est à Lérins, Marseille,
Saint-Victor.
Et puis après, ça s'est répandu à Ligugé, il y a eu Saint-Martin, etc. Tout ça, ça vient de l'expérience égyptienne. Et en fait, Saint-Benoît, vous savez, quand il est mort, il avait fondé que le Mont Cassin, hein, et Subiaco. Il avait déjà des monastères qui existaient, il a fondé un ou deux. En fait, ça, l'avantage de Saint-Benoît, c'est que sa règle, elle était... Voilà, il a fait une règle. Et en fait, tout le monde s'est dit, mais finalement, c'est très bien cette règle, on va l'adopter. Et en fait, tout le monde, non, parce que les Celtes avaient déjà eu... Aussi, alors eux, ils vivaient plutôt dans l'érémitisme itinérant. Mais ils fondaient aussi des monastères avec des règles épouvantablement dures. Et alors, à l'époque de Charlemagne, enfin de Louis le Pieux, si je ne me trompe, il y a eu un synode des abbés de l'Empire. Et Louis le Pieux, sur les conseils de Alcuin, a imposé la règle de Saint-Benoît en disant, d'abord, ça unifie tous les monastères de l'Empire, et deuxièmement, c'est la règle la plus modérée, donc il peut convenir à tous, et qui, en plus, ne propulse pas les moines immédiatement au ciel, quoi. Ça va nous permettre de rester un peu sur terre, parce qu'on en a besoin, notamment pour l'administration. Donc je pense que derrière, il y avait l'idée de la pérennité des moines, parce que vous imaginez des moines celtes, même celtes, passer des réciter tout le psautier dans un baquet d'eau glacée en Irlande. Au bout d'un certain temps, vous arrivez facilement à une pleurésie ou je ne sais quoi, et puis exit le moine. Hein. Donc,
pour se concentrer sur les psaumes.
Ah oui, ça ne devait pas être simple. Alors bon, en Égypte, c'était plutôt le contraire. Hein. C'était pas tellement le froid, c'était plutôt le
chaleur. Oui, d'accord. Installé sur le haut des colonnes.
Ah oui, dites donc. Hein.
Ça devait taper.
Si vous pouvez planter un petit arbre pour, vous savez, comme un ricin, comme
Jonas,
pour
se. Sur 4 mètres carrés, on peut planter un petit arbre.
Alors donc voilà pour Athanase.